Bonsoir à tous, c'est Indélébile, on est ensemble en direct jusqu'à 21h sur les ondes de Syllabs. C'est bien de retrouver un peu le direct,
ouais.
C'est un petit moment avec moi et bien Pauline, ça va?
Oui, ça va très bien.
Et bien justement, puisqu'on n'a pas fait d'émission depuis déjà quelques semaines, on a beaucoup de choses, on a un gros programme de nouveautés et qu'on va aller sans plus tarder du coup, hein, pour ne pas traîner. Voilà, et on commence avec un album, donc le troisième album d'un groupe américain qui s'appelle San Fermin, groupe de New York, si mes souvenirs sont bons.
Je n'ai pas la ville.
Je crois qu'ils sont de New York, il me semble. Voilà, donc ils sortent leur troisième album, Belong, qui est sorti tout début avril.
Oui, c'est ça, un album qui est plus une collection de chansons, alors que le groupe nous avait un peu habitués à des albums plus conceptuels, je pense. Donc en tout cas, voilà, on a un petit fond musical. Qu'est-ce que c'est ce titre?
C'est Better Company.
Ouais. Donc moi j'aime bien cet album. Toi t'es un peu moins convaincu?
Un petit peu plus partagé, ouais. Peu avec une impression que le groupe fait de moins en moins bien à chaque album. Le premier album était vraiment très bien.
Ouais.
Le deuxième était intéressant, mais avait le risque de tourner un peu à vide par moment. Et celui-là c'est aussi le gros problème. Il est un peu long. Il est un peu répétitif et je vois pas grand chose de nouveau par rapport à ce qu'ils ont pu faire. Et je trouve que l'album s'écoute, il n'est pas désagréable à écouter, mais je trouve qu'il n'est pas non plus extrêmement intéressant. Et même s'il y a quelques morceaux qui sont peut-être un peu meilleurs que les autres, globalement, je m'en suis assez vite lassé.
Ouais, moi je pense que je l'ai écouté plusieurs fois et c'est la remarque que je te faisais tout à l'heure. Je me souviens surtout du début de l'album
et c'est vrai
que peut-être que je décrochais aussi, mais je me souviens moins bien des titres.
Je pense qu'il y a un problème aussi avec le travail des voix, en fait, d'avoir deux chanteurs différents, c'est pas forcément une si bonne chose. En fait, ça manque d'identité et au final, on a un peu l'impression que c'est toujours plus ou moins la même chose et que d'un album à un autre, on tourne un peu en rond et que ça vire un peu la démonstration de force.
Il y a un souci aussi, c'est que je pense qu'ils ont un style assez particulier aussi
et
ils virent un petit peu des fois à la parodie de San Fermin.
C'est ça. Il y a le côté un peu auto-parodique qui en devient un peu gênant, malheureusement. Même si l'album reste plutôt correct. Hein, mais on peut craindre la suite du coup.
Si on n'a pas plus original à offrir,
poser
des questions. Mais en tout cas, moi je l'ai bien aimé. Après, je pense que si vous êtes déjà assez fan de San Fermin, vous allez retrouver tout ce qui vous plaît chez San Fermin.
Oui, tout de même, malgré
tout. Donc, c'est un peu le bon point. Si j'essaye de défendre cet album,
défends-le. Oh, ça va, il y a pire comme descente.
Ouais. Oui, c'est sûr.
Bon, on va écouter du coup un morceau de cet album qui s'appelle Bride.
c'était Bride de San Fermin. On espère que vous avez aimé ce morceau, puisque, en effet, ça reprend ce que San Fermin nous a habitués.
Tout à fait.
Mais je le trouve très prenant, en fait.
Oui, non, celui-là est plutôt pas mal. C'était un des premiers extraits, d'ailleurs, dévoilés de l'album, et ouais. Il était plutôt intéressant. Après, voilà, l'album est peut-être trop long à voir ce que deviendra le groupe dans les prochaines années. On va passer à un autre groupe américain, qui est les Spearasters, qui est un groupe, en fait, d'un des membres de Pavement.
Oui, en fait, c'est son projet solo, puisque c'est son pseudonyme. C'est sous ce pseudo qu'il fait sa propre musique. Parce qu'il a commencé même du temps de Pavement sous le nom de Spiral Stairs, et quand Pavement s'est dissous, il a continué de son côté. Mmh. Donc il a sorti un premier album en 2009, et il revient maintenant en 2017.
Voilà, hein, donc, il n'est pas pressé le mec, voilà. Hein, clairement, ouais. Un album par décennie.
Voilà. En fait, bah, ils sont fiers de la qualité. Quand c'est
oui, ah bah, la qualité au rendez-vous, l'album voilà, est
pour
très
le coup,
intéressant.
Très très bon album. Après, voilà, il traite de beaucoup de sujets personnels. Il lui est arrivé pas mal de choses, bien sûr, entre 2009 et 2017,
oui,
dont le décès de son batteur. Donc bon, il lui a fallu un peu de temps aussi, je pense, pour se remettre à la musique après quelque chose comme ça. Et on sent bien, enfin, les paroles sont très personnelles. Si ça vous intéresse d'aller voir les paroles d'un peu plus près, par beaucoup de nombreux déménagements aussi, puisque ça a l'air d'être quelqu'un qui bouge beaucoup avec sa famille. Donc voilà, ce sont les thèmes qui reviennent. C'est un album qui est vraiment très sympa à écouter. Il a en plus su bien s'entourer, puisque on a le chanteur de The National qui apparaît sur un des titres.
Ça, c'est cool.
Le chanteur de Broken Social Scene aussi. Donc bon, il a des bons copains et il les utilise quand il fait son album. Ça rend tout le monde content, je pense. C'est ouais. Je sais pas si toi tu as quelque chose à dire.
Ah ben non, moi j'aime vraiment beaucoup l'album. C'est vrai que ça a été. Je connaissais pas si bien que ça, Spearasters, si c'est de nom. Et ça avait été vraiment une très très belle surprise, cet album, qui est un bon album, bien efficace, de pop américaine. C'est plutôt cool. Et moi voilà, justement, si on aime un peu ce que fait Pavement, normalement ça devrait marcher aussi. Hein.
Ouais, je trouve pas
même
forcément.
Même si c'est pas proche, hein, même, mais il y a quand même un esprit que je retrouve un petit peu, quoi. Un esprit très indie pop américain.
Après, moi, je pense que ça me fait pas mal penser, tu vois, à tout. Tu vois, le fait qu'il y ait The National, ça m'étonne pas, quoi.
Évident,
quelque part, je trouve que ce côté un peu, même Elvai, un peu relax, pop rock, qui correspond plutôt bien aussi.
Eh ben, on va écouter un morceau alors.
Et oui.
Là, on entend derrière nous le morceau qui ouvre l'album Dance Cry Wolf, et on va écouter
The Unconditional.
Tell you a story about a little girl I know. Such a beautiful creature who I helped to grow. She came out sideways, her head tilted just so. And when the nurse found out what I was to call her, I knew it was time to go. This heartbeat I gonna do? It's unconditional love, baby. Isn't that what we go through? And this love, it means so much. This heartbeat, just enough.
Avec The Unconditional, l'album s'appelle Doris and the Daggers.
Allez, maintenant on passe à notre focus de la semaine avec l'album de Timbertimbre.
Ouais.
Des Canadiens qui sortent donc leur quatrième album, enfin en réalité leur sixième album, mais c'est le quatrième qui est sorti en France.
Ah oui, je n'étais pas au courant de cette histoire.
Il y a deux albums un peu fantômes qui sont sortis sur un autre label au Canada et qui sont même pas vraiment reconnus du coup par le label, leur label. Et du coup, leur label présente ça comme le quatrième album. En fait, c'est plutôt leur sixième. Mais de toute façon, en plus, en France, on connaît que ces quatre-là.
Il y a moyen d'écouter les deux premiers ?
Ben, j'ai pas réussi à trouver.
Des albums fantômes. J'adore les histoires comme ça dans la télévision.
C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cet album de Timbertimbre, donc le groupe canadien qu'on avait découvert à la fin des années 2000, c'était en 2009 avec leur très beau premier album, et qui nous avait sorti deux autres albums, dont le dernier, Old Dreams, m'avait pas totalement convaincu. Je commençais à trouver qu'il s'enfermait un petit peu dans quelque chose qui tournait un peu en rond. Et agréable surprise avec cet album qui est plus influencé par la musique des années 80. Ils ont découvert plein de choses et ils ont osé prendre le risque d'aller derrière des choses un peu de mauvais goût. Et ça renouvelle vraiment leur son et c'est vraiment très très cool. Je trouve que c'est l'album, un des albums majeurs de cette année et certainement leur meilleur album au final.
Je pense que Taylor Kirk, le chanteur, serait très content d'entendre dire ça, parce qu'apparemment, oui, ça a été un de ses gros soucis après
ça
la sortie de Hot Dreams, parce qu'il avait eu l'impression d'avoir atteint une sorte d'apogée artistique, il ne savait plus trop vers où aller. Et donc c'est vrai que ça a été compliqué de faire comprendre aussi aux autres membres du groupe qui souhaitaient changer de son, évidemment, voilà, en plus tu dis de se tourner vers des choses.
D'un autre côté, les autres membres du groupe, parce que c'est ça aussi, le Timbertimbre à la base c'était vraiment un projet solo de Taylor Kirk, et qui petit à petit s'est entouré de musiciens, et maintenant c'est devenu vraiment quasiment un groupe. Enfin, ces deux musiciens travaillent directement avec lui, et aussi eux justement ont amené certaines de leurs influences, notamment les Talking Heads, Talk, que Taylor Kirk connaissait pas du tout pour le
coup. Donc je pense que ça a rendu un travail intéressant, le fait qu'ils se soient remis en question à ce point-là. Ça a permis peut-être de débloquer certaines choses entre les membres du groupe ce qu'ils souhaitaient faire maintenant. Parce que...
Et puis avec une grosse influence, David Bowie.
Ouais.
Évidemment, hein, David Bowie, celui de la fin des années 70, début 80, et c'est assez flagrant, mais en même temps, on retrouve aussi même du Phil Collins, alors que ça a été un peu
sujet de... C'était ça que tu voulais dire avec mauvais goût.
Oui, voilà. Phil Collins, il a fait des bonnes choses aussi. Réhabilitons Phil Collins, au point où on en est.
Allez.
De toute façon.
C'est l'année de Phil Collins.
C'est ça. Avant d'aller peut-être plus loin, on va peut-être écouter justement un morceau.
Mais oui.
On peut écouter Grifting.
Ouais.
Eh ben on y va alors. Grifting de Timbertimbre, extrait de leur quatrième album, ou sixième album, selon comment on calcule le truc, qui vient de sortir et qui s'appelle Sensory Future Pollution.
Justice.
touches, clutches, touches, pushing, pulling, punches, ragged, bluffing, lunches, pulling off a fast one, riffing off the last one, reeling in the big one, fished in, fished in, grifting, grifting, grifting. Faking it to make it, never give, but take it, building trust through kindness to explore the finest walls and bridges burning, time and table turning, double dipping, earning, lifted, lifted, grifting, grifting, grifting.
C'était Grifting de Timber Timbre, le premier extrait de Sincerely Future Pollution.
Et on va continuer justement à parler de cet album aux résonances un petit peu politiques d'ailleurs.
Ouais, c'est assez dark. Hein. On sent qu'ils n'ont pas voulu faire un album totalement dystopique, mais les sujets abordés, bien sûr, font référence à ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. C'est le cas de beaucoup d'artistes aussi qui sortent des albums en ce moment, j'ai l'impression.
Oui, ben, on parlera de Face John Misty bientôt.
Voilà. Mais en tout cas, ils ont poussé. Je pense que c'est beaucoup moins flagrant et beaucoup moins nommé précisément.
Oui, oui.
Mais il y a une sorte de.
Taylor Kirk dit dans les interviews qu'il veut prendre un peu de distance tout de même, voilà, et ne pas être totalement explicite là-dessus. Qu'il parle de choses qui sont quand même assez intimes, mais en même temps, évidemment, bah, l'intime est influencé aussi par ce qui peut se passer autour de soi. Et c'est logique qu'on retrouve ça dans sa musique.
Ouais, ça fait un peu bande-son d'une époque troublée ou une sorte de futur justement. on ne sait pas trop ce qui se passe, quoi. C'est... Même la pochette avec la ville de nuit, comme ça, c'est un peu menaçant.
C'est magnifique, d'ailleurs, ouais. cette pochette qui est une vieille photo des années 30, en fait, mais qui est assez intemporelle. Et l'idée aussi était là, par rapport à ce qu'ils disent aussi dans leurs interviews, c'est à la fois capter quelque chose du temps, aussi bien d'ailleurs musicalement que thématiquement, puisque musicalement, le retour des années 80, c'est assez flagrant aussi. Et il y a toute une musique aussi synthétique qu'on entend justement dans ce morceau Bleu Nuit qu'on entend derrière nous, qui fait référence aussi à une certaine composition de musique de films des années 80, par exemple.
A découvert John Carpenter, je crois, assez récemment.
Il y a John Carpenter, donc forcément c'est pour ça. Et puis donc à la fois refléter une certaine humeur musicale et puis une humeur aussi de l'époque, dans le sens où une humeur politique ou ce genre de choses, en fait. Ouais. C'est ça l'idée.
Un monde dangereux,
tout à fait. Et en tout cas, nous, on les a vus aussi en concert et lors du festival Mythos, et c'était extrêmement bien aussi. Ouais. Ils ont joué surtout cet album-là, du coup, ils ont peu joué les trois derniers albums, mais c'est un album qui se prête hyper bien au concert. Et ça devenait un concert assez fabuleux et beau.
Surtout avec le chapiteau de Mythos, si vous êtes déjà entré à l'intérieur, vous voyez de quoi je parle. C'est... Justement, je pense que c'est pas un concert qui était fait pour. Enfin, c'est pas un groupe de festival, c'est pas un groupe qui a énormément de charisme sur scène, mais là, le fait que ce soit resserré avec cette ambiance-là, c'était beaucoup plus sympa. Et ça se prêtait bien, en fait, à ce dernier album.
Tout à fait. Eh bien, on va écouter un autre morceau. Alors, justement, on parlait des questions du côté un peu politique de l'album. On va passer Western Question, qui, justement, parle beaucoup, quand même, des problèmes actuels dans le monde, si vous voyez de quoi je parle. On va donc écouter ça, Tim Burton, Western Question.
Dislocated relocations.
Bermuda Triangle Tour, the disappearance of a floating cathedral into the sewer. Let the slime come, the gelatinous walls of the seeds that seldom remain, while the balls of browser leo through computer casinos honor the name.
Western Questions de Timber Timbre, c'est mon titre préféré de cet album. J'aime beaucoup.
Bon, bah au moins ça c'est dit.
Voilà.
On va donc passer à un autre groupe qui lui aussi nous étonne, c'est le groupe anglais Splash, ouais. Et qui aussi ont opéré un certain tournant quand même dans leur musique. Hein.
Ouais, c'est assez impressionnant parce que autant j'aimais bien leur premier album.
Oui, mais qui était très surf pop, voilà, un petit peu dans ce côté-là, que... très facile, très, très sympa, mais,
ouais.
Mais on ne s'attendait pas forcément à un truc beaucoup plus rock, beaucoup plus électronique aussi, beaucoup synthétique.
Ouais, puis ils auraient pu très bien rester dans cette veine-là, puisque ça fonctionne
oui,
en ce moment,
clair,
ce
ouais.
genre de groupe. Mais non, apparemment, ils ont voulu se remettre en question aussi un peu. Ils se sont tournés, puisqu'apparemment, ils ont aussi beaucoup d'influences très électroniques.
Oui.
Parce que, je pense qu'on ne pouvait pas s'en douter avant cet album-là.
Non, sur le premier, c'était pas
voilà.
évident. Ouais.
Et disons qu'ils sont partis avec l'idée de faire un album beaucoup plus électronique. Alors, au final, il n'y a pas tant que ça de morceaux qui ont une grosse, grosse influence électro. Mais donc là, celui qu'on entend en fond particulièrement, où en fait,
Look Down to Turn Away.
Voilà. Qui est un super morceau qui monte en puissance tout du long de la chanson, en fait, et ça explose, et c'est très très électronique. Et donc, c'est un de leurs morceaux préférés de l'album, apparemment. Donc, moi, je les ai vus en concert la semaine dernière, c'était leur premier concert. Et donc, du coup, ils étaient très stressés à l'idée de jouer ce morceau, et ça s'est très bien passé. C'est vraiment, vraiment
c'est particulier à voir ce morceau-là justement en concert.
Bah, surtout qu'il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe en plein milieu du set, parce que forcément.
C'est un peu justement comme Bleu Nuit hein, de Timber
Timbre,
hein, ce morceau totalement expérimental, enfin presque instrumental avec le vocodeur dessus de Taylor Kirk. Là, ça revient un peu au même, quoi. C'est vrai que ce côté-là, assez original par rapport à ce qu'il faisait jusque-là.
Ouais, j'avais assez peur de la réaction des gens, puisque l'album vient tout juste de sortir, les gens n'avaient pas forcément écouté, et au final, le public a très très bien répondu. Et même à toutes les chansons de l'album en général, puisque c'est plus rock.
Mais du coup, comment ça devait faire bizarre le passage des anciennes chansons aux nouvelles chansons durant le concert, comme
bah,
c'est très différent.
C'est une petite gymnastique. Après, les gens étaient très contents d'entendre les anciens morceaux, puisque je pense que les gens étaient très très fans du premier album aussi. Donc c'était intéressant à voir justement ce mélange des deux styles, puisque ça a plutôt bien évolué. Ils ont pris, je sais pas exactement, mais ils ont pris une certaine confiance sur scène. C'est assez impressionnant. Je les ai vus dans un petit club et j'avais l'impression d'être en festival presque.
D'accord, on espère du coup les voir dans le coin, parce que tu les as vus en Angleterre. On
et ils vont jouer à Nantes, donc c'est le festival L'Air de Rien, c'est pas à Nantes même, mais juste à côté.
Tout à fait.
Donc très bientôt d'ailleurs, fin avril, donc si vous êtes dans le coin, passez
les voir. On va chercher la date exacte, on vous dira ça, et puis on mettra ça sur internet. On va donc y passer un morceau justement qui s'appelle en plus Closer.
Et oui.
Qui quand même du coup fait penser à Joy Division, mine de rien.
Ouais.
Joy Division et puis New Order évidemment, puisque c'est quand même assez flagrant aussi en termes d'influence, outre le côté plus électronique.
Voilà.
Et ben on va l'écouter tout de suite, donc Closer de Splash sur l'album Waiting a Lifetime.
Come close to me.
C'était Closer de Splash.
Et Splash.
Attendez,
c'est ça. On va passer à un autre groupe, retour aux États-Unis avec The New Pornographers.
Au
qui
Canada
sortent...
même.
Ah oui, c'est vrai qu'ils sont même canadiens, exact. Ils sont pas américains. Ils sont pas états-uniens, du coup.
Ils doivent être très contents, d'ailleurs, entre
qui... moi. Oui. Ça fait beaucoup de Canadiens dans cette émission.
Oui.
Et qui, d'ailleurs, est notre deuxième focus. Voilà, c'est un focus très canadien, du coup.
Voilà.
C'est des focus très canadiens.
Le Canada nous a convaincus cette semaine.
Voilà, tout à fait. Eh bien, écoute, qu'est-ce qu'on peut dire de cet album qui s'appelle White Old Condition, qui est leur, je sais pas, cinquième, sixième album, au moins.
Septième.
C'est même leur septième album, c'est fou.
Septième album.
C'est fou, c'est fou.
Pour un groupe qui, personnellement, je ne trouve pas très connu, puisque même moi, je
connaissais
oui, seulement deux
noms.
Ah oui,
très très peu connu en France. Hein.
Voilà, après, c'est en me renseignant, du coup, moi, j'ai découvert qu'à l'intérieur, il y avait quand même Dan Bejar, qui est Destroyer, en fait.
Oui, mais c'est ça, en fait, c'est un super groupe, voilà. C'est le Pornographers. Hein,
Ouais, et Neko Kay, c'est pas vraiment un super groupe, je pense qu'ils préfèrent l'appellation collectif
oui,
musical.
C'est vrai.
C'est un truc très canadien, ça aussi.
Un peu comme le Broken Society,
voilà.
Justement.
Ils aiment beaucoup faire des collectifs. Et donc là, c'est pareil, les autres musiciens sont pas forcément hyper connus, d'ailleurs. Hein. Le leader du groupe officiel, c'est Carl Newman, moi je ne le connaissais pas du tout. Il fait de la musique en solo aussi.
Mais oui, c'est quand même des gens qui ont une carrière à côté, et
voilà.
Qui ne font pas que ce groupe-là, mais qui sortent quand même des albums assez régulièrement. Le dernier album n'est pas si vieux que ça, et qui avait fait des albums plutôt déjà réussis jusque-là.
Oui.
Et celui-là est tout aussi réussi, globalement.
Ouais, sur la longueur, pour le coup, moi je le trouve très réussi, justement.
Ah oui, en effet,
c'est...
Ouais.
C'est vraiment un album avec beaucoup de chansons. Enfin, ils sont très
avec
influents.
Avec des très très bonnes chansons. C'est
ouais.
Tout ça en fait. C'est un très bon album de chansons.
Ouais, c'est ça. Et puis on sent ce côté très joyeux, pétillant et en même temps un peu anxieux. Et c'est ce mélange-là aussi que j'aime beaucoup. Ce qui donne des chansons qui sont assez fortes.
C'est vrai.
Et en décrivant justement le style qu'ils ont essayé d'approcher avec cet album, ils ont créé un peu leur propre style. C'est le krautrock bubblegum.
Ouais, c'est vrai que ça convient assez bien.
Ouais.
On va donc écouter justement un morceau de cet album qui s'appelle Coliseum et on revient juste après.
I
c'était Colosseums, un extrait du dernier album The New Pornographers.
Qui s'appelle White Out Conditions. Et on va continuer à en parler puisque c'est notre deuxième focus de la semaine. Donc comme on le disait, un album extrêmement réussi. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur justement ce groupe et cet album?
Alors du coup c'est un groupe... Alors déjà quand ils ont commencé dans les années 90, ils étaient très très influencés par Belle et Sébastien. Oui. Donc c'est vrai que ça se ressent, enfin moi je connaissais pas beaucoup et en écoutant ça c'est vrai que c'est ce côté un peu...
Le morceau qu'on entend est assez, assez flagrant là-dessus justement.
Et ce qui est bien c'est qu'ils sont peut-être un peu moins sucrés que Belle et Sébastien maintenant.
Oui, ils ont un côté un peu plus sombre que, que Belle et Sébastien en effet. Ouais.
Oui, parce que c'est sur une des chansons d'ailleurs, je crois que le chanteur parle d'un épisode dépressif qu'il a eu récemment. Donc les thèmes abordés c'est pareil, on parle aussi de Trump évidemment. Donc...
Forcément, voilà, c'est la grande star de l'année bizarrement.
C'est ça, hein, je pense que là il va gagner plusieurs Grammys. Et aussi pas mal de l'industrie du divertissement en fait, puisqu'ils font partie à fond bien sûr de ce mouvement-là avec tout ce qui est musical mais aussi tout ce qui est autre que musique. Et ils sont assez critiques de tout ça. D'ailleurs, sur cet album, ils viennent de quitter Matador pour aller sur un label qui s'appelle Concord, qui leur proposait de créer leur propre en fait, label, sous-label, pour sortir leurs albums de manière encore plus indépendante. Donc j'ai l'impression que c'est des gens assez... Assez militant.
Assez militant, en effet. C'est pas forcément très étonnant quand on écoute l'album et qu'on regarde un petit peu les paroles. On va donc écouter un autre morceau de cet album qui s'appelle High Attraction. Pardon. You can imagine.
Suitcase.
Ticket Attractions. Donc c'était The New Pornographers.
Et maintenant, on va passer à un groupe qui fait son retour après un album qui avait largement marqué, qui était Singles. Il s'agit du groupe Future Island, qui est attendu un peu au tournant, justement, après leur dernier album. Je veux dire, le premier, non, c'était leur troisième, je crois.
Ouais, bah c'est un peu spécial, en fait, je pense, d'exploser aussi tard dans sa carrière, presque.
Ah, puis ça a été une grosse explosion, parce que Singles, ça a été quand même vraiment une espèce d'usine à tubes et un gros succès pour eux. Ils ont énormément tourné, et forcément, c'était pas évident de revenir avec un nouvel album.
Je pense que ça met la pression, et de ce qu'avait l'air de dire le chanteur, il a toujours gardé beaucoup en tête ce nouveau public acquis aussi quand il a écrit les chansons.
Ouais.
Dans le sens où il voulait absolument plaire aussi à ce nouveau public et qu'il voulait créer des choses qui allaient...
On en arrive tout de suite au point de Discord.
Ah non, mais c'est...
non, mais c'est vrai.
Dit en interview.
Non, mais c'est vrai. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est pas forcé, justement. Je sais que toi, tu trouves que l'album peut-être paraît un peu forcé et manque un peu de spontanéité. Moi, je trouve que ça peut en effet peut-être exister, mais bon, comme pour beaucoup de groupes, mais ça n'empêche que l'album est vraiment très réussi. Et depuis qu'il est sorti, alors que je craignais un petit peu justement qu'il me déçoive, je suis assez emballé par l'album, que j'écoute beaucoup. Je m'explique juste pas un truc, c'est le duo avec Debbie Harry qui est clairement le moins bon morceau de l'album. On se demande un peu ce qu'elle vient faire là, Debbie Harry.
Je sais pas, après certaines personnes l'ont bien aimé de ce que j'ai vu, ce morceau.
Oui, paraît-il.
Voilà, ouais.
Mais sinon, le reste de l'album est vraiment très très bien. Alors, je sais aussi qu'on lui a pas mal reproché d'être très répétitif. Je sais pas toi si c'est ton avis, mais.
C'est peut-être ça aussi qui fait que j'accroche pas plus que ça.
Après, ça vient de leur site de musique aussi. Ils ont un site de musique qui. C'est Singles aussi, quelque part. Enfin, on peut dire que tous les morceaux se répètent et en même temps, il y a quelque chose. C'est vraiment une espèce de variation, en fait, de leur style musical qui je trouve assez fort, en fait, et assez intéressant chez eux. Et qui marche, je trouve, à fond. Et il y a un côté aussi assez intemporel. On aurait du mal à dater vraiment les influences, sont assez nombreuses. Apparemment, c'est le chanteur du groupe, du coup, a une énorme culture sur de hip-hop et tout ça. Donc, tu vois, c'est assez surprenant, justement.
Oui.
Voilà.
J'entends ces informations.
Il y a un côté, voilà, je trouve que ça fonctionne bien. Mais
par contre, là, je suis d'accord là-dessus, cet album, c'est rempli de tubes.
Ah oui.
Il ne sait faire que des tubes maintenant, je pense. Il ne sait plus faire autre chose.
C'est pas mal en même temps.
C'est pas mal.
Il sait faire des tubes.
D'un autre côté, enfin...
Oui, mais ils sont pas devenus non plus hyper commerciaux pour autant.
Non, c'est pas non plus ce que je veux dire quand je dis qu'ils font que des tubes, mais du coup, il y a un moment où, je suis pas hyper surprise d'un morceau ou un autre, et surtout comme je connaissais déjà un petit peu Future Islands avant. Donc peut-être que je me lasse, et puis après c'est personnel aussi, hein, je pense.
Oui, c'est
à beau parler, je pense, de thèmes assez forts, et on sent qu'il a énormément d'émotions à délivrer, ce chanteur, et pourtant ça bloque, moi je n'arrive pas à être bouleversé par ce qu'il nous fait.
Bon, peut-être que tu seras plus convaincu par leur passage à la Route du Rock, hein, puisqu'ils joueront donc le samedi soir à la Route du Rock en août. On a hâte de voir ça. Et on va écouter un autre morceau. Donc derrière nous, c'était Aladdin. Et on va écouter North Star, extrait donc de cet album qui s'appelle The Far Field et qui est sorti il y a 2 semaines de cela.
Said I'd be there tomorrow.
Star de Future Islands.
Ça réveille quand même.
Oui, ça je suis d'accord avec toi, ça réveille.
Alors on va passer, pour terminer l'émission, à un artiste français dont on a déjà parlé il y a quelques temps dans l'émission. Cet artiste, il s'appelle Pérez, donc c'est un... Il avait sorti un premier album, Salto, c'était donc l'année dernière, on en avait donc bien entendu parler dans l'émission, et il a sorti, en attendant la sortie de son deuxième album, qui devrait sortir normalement à la fin de l'année 2017, si tout va bien, il a dévoilé sur son SoundCloud il y a quelques jours un album en fait qui est un petit peu particulier, qui s'appelle un album de collection, et qui en fait est un projet qu'il a fait, je crois que c'est une commande à la base du FRAC Île-de-France, donc le fonds d'art contemporain donc, de l'Île-de-France, et en gros l'idée c'était de faire une performance en créant des morceaux sur plusieurs œuvres d'art en fait qui étaient exposées donc dans ce lieu, le plateau c'est donc à Paris, et donc il a sorti cet album qui est assez intéressant puisque donc on a vraiment chaque œuvre est liée à un morceau, et du coup il s'est inspiré un petit peu de l'œuvre pour ce morceau, ça crée un album qui est vraiment très réussi, qui est assez intéressant, et il a fait un seul concert, une seule représentation de cet album, c'était donc la semaine dernière. J'aurais bien aimé y aller parce que je pense que ça devait être très intéressant aussi justement de voir comment il a créé la musique autour des œuvres et comment il a mis ça en scène finalement durant le concert. Mais en tout cas, on peut déjà au moins écouter son album qui s'appelle donc un album de collection comme je le disais et qui est sur son SoundCloud. On vous mettra le lien sur le site de l'émission avec le podcast. Toi, t'as pas écouté l'album, je crois que t'as
non,
pas eu le temps encore.
J'ai pas eu le temps.
Tant pis, mais je t'encourage à l'écouter.
Une question néanmoins, du coup, est-ce qu'on a moyen de voir les œuvres aussi?
Alors oui, on peut les voir sur le site du FRAC, du FRAC Île-de-France.
Oui, pour se faire une idée.
Faire une idée, normalement, c'est possible, tout à fait. Très bien. Eh bien, on va se quitter avec ça. On se retrouve la semaine prochaine en direct avec une nouvelle émission. Et d'ici là, eh bien, écoutez, bonne soirée, bonne semaine et à la prochaine.
À la prochaine.
Et on se quitte donc. Le morceau s'appelle Le Sphinx de Pérez, extrait d'un album de collection.
Dans mon appartement, il y a une table. Dans mon appartement, il y a une étable. Il y a un disque de sonnerie. Il y a une reste du savoir. Il y a un bec sous une étagère. Une aire de bivouac tout au fond de moi. Dans mon appartement, il y a un batteur que j'ai connu et une grande fibre dont j'ai porté le costume. Il y pousse des arbres et des fougères d'excessivement vastes. Yeah.